contribution dans cette édition. À la prochaine.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 14 mars 2025. Le président béninois Patrice Talon a assuré qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Il dirige le Bénin depuis 2016.
Quand les gens n'ont pas vu, ils ne croient pas. Surtout que dans les faits, il y a eu un certain nombre d'éléments, tels un château de cartes, plusieurs proches collaborateurs du président Talon, qui étaient qualifiés d'être présidentiables, sont tombés en disgrâce les uns après les autres.
Que faut-il savoir sur les discussions directes entre le gouvernement de la RDC et les rebelles du M23?
Avoir su l'invitation de la médiation angolaise, et on verra maintenant ce que le chef d'État décidera, à quel niveau de représentation ça va se faire, en tout cas au niveau de Luanda à partir du 18.
Tina Salama, porte-parole du président Félix Tshisekedi, nous parlera des dispositions arrêtées par Kinshasa. Ici aux États-Unis, le président Trump se rend au ministère de la Justice cet après-midi pour présenter sa vision du ministère.
Il va expurger de l'appareil et il va expurger de l'administration toutes les personnes qui ne sont pas, qui ne pensent pas un peu comme lui. Et c'est de bonne guerre parce que tout est politisé.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui. Bonsoir, bienvenue. Le président béninois Patrice Talon a affirmé aujourd'hui qu'il ne serait pas candidat à un troisième mandat lors d'un entretien au magazine Jeune Afrique, ajoutant que cette question l'agaçait et qu'il restait attentif au choix de son successeur. Pour en savoir davantage, Claire Morin-Gibou a joint l'analyste politique Vincent Agué.
La question du troisième mandat des chefs d'État est un serpent de mer des fins de mandat dans notre pays. De Kérékou à Patrice Talon, on s'en rend bien compte. Le président Yahi, vers la fin de son mandat, vers 2015, avait subi les mêmes accusations, notamment de la part de l'opposition qui est aujourd'hui au pouvoir. C'est vrai que Patrice Talon a déjà dit qu'il allait respecter la limitation du mandat, d'autant plus que c'est lui-même qui a voulu que la limitation soit renforcée. Mais comme vous le dites, la question est restée d'actualité pendant longtemps et probablement encore pour jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle en 2026. Peut-être, je dis peut-être, parce que il y a aussi comme une sorte de phobie des troisièmes mandats qui fait que quand les gens n'ont pas vu, ils ne croient pas. Surtout que dans les faits, il y a eu un certain nombre d'éléments, tels un château de cartes, plusieurs proches collaborateurs du président Talon, qui étaient qualifiés d'être présidentiables, sont tombés en disgrâce les uns après les autres.
Le président Talon s'est dit, je cite, attentif au choix de son successeur. Il souhaite que le prochain président ne déconstruise pas les réformes accomplies en 10 ans. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Et pensez-vous qu'il a un poulain en tête?
Alors oui, la précaution, si vous voulez, que le président met en place pour contrôler, si vous voulez, le choix du prochain président de la République, c'est une approche légitime politiquement. Même si juridiquement, on peut douter de ce que ça soit obligatoire, d'autant plus qu'il peut provenir de n'importe quel camp politique. L'essentiel, c'est que le jeu politique se fasse dans les règles établies par la loi. Politiquement, il a probablement raison de vouloir que son successeur soit quelqu'un qui réponde de son idéologie politique, de sa façon de voir, de sa façon de faire les choses. Mais alors, est-ce qu'il a un poulain? Est-ce qu'il prépare un poulain pour cela? Je pense que c'est la moindre des choses, après qu'il ait dit clairement qu'il souhaiterait que ces réformes soient renforcées. Même s'il n'a pas encore dévoilé le visage de ce poulain aujourd'hui, je crois que politiquement, il serait naïf de penser que le président ne prépare pas quelqu'un avec évidemment son camp politique pour que les électeurs puissent orienter leur choix vers cet homme ou cette femme que le président aurait préparé.
L'opposition a créé une coalition en novembre dernier pour, ont-ils dit, réparer une démocratie abîmée. Ils veulent pour 2026 une élection libre et transparente. Pensez-vous que cela soit possible?
Le combat de l'opposition politique béninoise pour travailler à l'alternance politique en 2026 n'a pas commencé en novembre dernier. Alors, est-ce qu'il est possible pour eux de parvenir à leur fin? La question, il est un peu difficile d'y répondre par l'affirmative ou par la négative, surtout quand on voit que depuis la mise en place du cadre de concertation, il y a quand même quelque chose que ce regroupement de partis d'opposition a obtenu, à savoir l'audit de la liste électorale qui a été accepté et qui est accompagné financièrement par le gouvernement de Patrice Talon. Et donc aujourd'hui, le rapport de force politique, on n'a pas l'impression que ce rapport de force soit en faveur de l'opposition, mais il continue, je vais dire, les partis opposés au pouvoir, ils continuent de mener la lutte. On attend de voir quel sera l'aboutissement de leurs différentes démarches.
C'était Vincent Aguet, analyste au think tank Civic Academy for Africa's Future. Il était joint à Cotonou au Bénin. Direction la République démocratique du Congo, comment Kinshasa a-t-il reçu l'annonce, la fin de la mission militaire de la SADC sur le sol congolais et du départ des troupes de l'organisation qui appuyait l'armée de la RDC, et comment réagit-il à l'annonce de la date des négociations directes avec le M23? Eddy Sango a joint à Kinshasa la porte-parole du président Félix Tshisekedi, Tina Salama.
Alors oui, je pense que notre position est claire là-dessus. Nous l'avions annoncé sans embâge. Comme vous le savez, le président de la République a été reçu en tête-à-tête par son homologue angolais, João Lourenço, en Angola, Luanda. Et il lui a fait part, en tout cas, des démarches entreprises dans le cadre de la médiation. Alors le président de la République a dit prendre acte, parce que lui, en tant que médiateur, en tant que... on va dire que les deux processus en ce moment sont sous lui dans le cadre de sa présidence en exercice de l'Union africaine. Donc il a fait des propositions et il est donc en droit de pouvoir faire des propositions en tant que médiateur. Il nous en a informé, il nous a fait part donc des initiatives, des démarches entreprises, et nous, on a dit tout simplement prendre acte et de voir comment tout cela va être mis en œuvre. Cela étant, nous rappelons encore une fois qu'il y a deux processus qui existent, qui ont été validés pleinement par le sommet des chefs d'État, le sommet extraordinaire, c'est de ça dont nous parlons ici, donc de Dar es Salaam, EAC, SADC. Il y a également, et c'est là que nous voulons vraiment insister, la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est assez claire. Et donc les deux processus, de Luanda en tout cas, ça nous renvoie à discuter entre États, donc avec le Rwanda en l'occurrence, et puis il y a le processus des Nairobi avec les groupes armés. Donc nous, par rapport à ce que Luanda propose en ce moment, nous avons pris acte, nous observons de la mise en œuvre. C'est ce que nous pouvons dire pour l'instant.
Maintenant, le président Félix Tshisekedi avait toujours dit qu'il ne négocierait jamais avec le M23. Va-t-il se rendre à Nairobi ou se faire représenter? Les rebelles exigent aussi qu'il fasse une déclaration publique promettant qu'il va s'y rendre. Comment réagit-il?
Oui, alors pour l'instant, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons reçu l'invitation. Nous confirmons en tout cas bel et bien avoir reçu l'invitation de la médiation angolaise. Et on verra maintenant ce que le chef de l'État décidera, à quel niveau de représentation ça va se faire, en tout cas au niveau de Luanda à partir du 18. C'est ce que nous pouvons dire pour l'instant. Par rapport à tout le reste, bah écoutez, comme je l'ai dit plus tôt, c'est en tout cas une initiative, une démarche de la médiation. Et donc nous, on a pris acte et on va voir la suite.
Le président Félix Tshisekedi a assisté au sommet virtuel de la SADC hier. Comment a-t-il reçu l'annonce du retrait de la force de la SADC, SAMIR, en RDC?
Alors, par rapport au retrait de la SAMIR RDC, écoutez, je pense que c'est compréhensible au vu, au regard de la situation qui prévaut dans la partie Est en ce moment. Et vous savez très bien ce qui s'est passé, où des casques bleus, des soldats, on va dire, de la SAMIR RDC ont perdu la vie et même les conditions de rapatriement très, très difficiles et tout ce qui s'en est suivi. Donc le sommet a donc décidé de mettre fin au mandat de la SAMI RDC, qui se fera progressivement d'ailleurs. Donc ce qui est important ici, c'est de souligner en tout cas qu'il y a toujours cette solidarité, que le sommet a commencé par réaffirmer en tout cas sa détermination à régler le conflit en cours en RDC, à soutenir les interventions dans le cadre
de ce pacte que nous avons de défense mutuelle des membres de la SADC, un pacte qui existe depuis 2003. Donc ce n'est pas fini. Le sommet a réitéré en tout cas ou a exprimé, on va dire, sa solidarité avec le peuple congolais et renouvelé encore une fois son engagement sans faille à maintenir le soutien qu'il apporte à la République démocratique du Congo.
Tina Salama, porte-parole du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. La conférence de l'ONU sur les droits des femmes dans le monde se poursuit à New York. Comment les conditions des femmes africaines ont-elles évolué sur le continent après la conférence de Beijing en 1995? Georges Léonard Sagnot a interrogé l'activiste togolaise Rachimini Malam Moumini, ancienne boursière du programme Yali et actuelle membre de l'Alliance féministe francophone qui participe à cette session. Suivez.
La CSW 69, c'est la commission sur le statut de la femme. En gros, l'organe de l'ONU qui s'occupe de la condition de la femme dans le monde. Et je crois chaque année, il y a une conférence pour pouvoir discuter du statut de la femme en termes de droits et si la femme jouit de ses droits dans le monde entier. Plusieurs pays sont représentés. Plusieurs parlementaires sont là, la société civile est aussi présente pour justement parler des constats sur le terrain et réclamer plus de droits pour les femmes. C'est ma première participation. Je découvre encore et je suis fascinée par tout ce qui se passe, les multiples sessions, qui sont d'ailleurs toutes intéressantes et il faut vraiment choisir minutieusement à quelle session participer.
Quelle expérience cette conférence vous apporte-t-elle?
L'expérience que je tire de cette conférence, c'est que la lutte pour les droits des femmes, enfin les réalités des femmes, sont identiques dans la majorité des pays. Je dis identiques parce que je suis venue ici au nom de l'Alliance féministe francophone, où nous avons des féministes de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord et de la France. Et de nos discussions, je me rends compte que la réalité que vivent les femmes de mon pays, y compris moi, sont les mêmes que les femmes tunisiennes, les femmes d'Algérie et les femmes en France. Du coup, notre réalité est la même. Et en tant qu'alliance, je pense qu'on fait bien de se mettre ensemble pour apprendre les unes des autres et partager nos expériences. Et venir à cette CSW est aussi le moyen pour nous, en tant qu'alliance féministe francophone, de faire entendre la voix des féministes francophones. Parce que dans ce genre d'espace, vu que la langue primordiale est l'anglais, beaucoup perdent les informations. Beaucoup d'abord n'arrivent pas à venir, à participer à ce genre d'espace. Parce qu'il y a, le problème de visa, on l'appelait, je ne sais pas si on l'appelait violence de visa, mais beaucoup se sont vus refuser le visa. Beaucoup ont eu des contraintes financières pour pouvoir venir à ce type de, à cette conférence. Donc c'est vraiment beaucoup de défis qu'il faut affronter pour pouvoir avoir accès à ce genre d'espace.
Alors, selon vous, est-ce que la condition de la femme africaine a évolué?
De mon point de vue, je peux dire oui, que la condition de la femme africaine a évolué. Je crois d'un pas et on recule d'un pas et demi. Dans mon pays, l'école primaire est gratuite pour les enfants, pour les jeunes filles comme les jeunes garçons. Mais il y a quand même encore des défis à relever.
Lesquels?
L'accès aux opportunités, par exemple.
Lesquelles opportunités?
Dans mon contexte actuellement, un jeune peut finir l'université sans jamais toucher à un ordinateur. Ça, c'est un défi que nous avons. Lorsque je parle de défis, premièrement, au niveau de l'école primaire, c'est qu'il peut y avoir plus de 50 élèves dans une classe. Et cette condition-là ne permet pas à ce qu'on puisse bien assimiler les cours pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Donc la gratuité ne résout pas forcément le problème. Il faut un accompagnement pour que cette gratuité-là puisse bénéficier aux jeunes filles comme aux jeunes garçons.
Après Beijing de 1995, est-ce que les droits, les lignes ont bougé, j'allais dire? Est-ce que les droits des femmes en Afrique, au Togo particulièrement, ont évolué 30 ans après?
Les lignes ont évolué.
L'activiste féministe du Togo, Rachimini Malam Moumouni.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour l'actualité internationale. En ce vendredi 14 mars 2025, les États-Unis se trouvent à nouveau au bord d'une paralysie gouvernementale, communément appelée « shutdown ». Si aucun accord n'est trouvé d'ici minuit, une partie des services publics pourrait cesser de fonctionner, affectant des millions d'Américains. Le point avec Jacques Aristide.
Le Sénat est actuellement en session pour tenter d'éviter cette situation. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a exprimé sa détermination à faire adopter une résolution continue visant à financer le gouvernement jusqu'à la fin de l'année fiscale en septembre. Cette mesure prévoit une réduction de 13 milliards de dollars des dépenses non liées à la défense et une augmentation de 6 milliards de dollars pour le budget de la défense, portant le total des dépenses à près de 1 700 milliards de dollars. Chiffre faramineux. Nous devons assurer le financement du gouvernement et soutenir nos forces armées. Ce projet de loi est essentiel pour maintenir la sécurité et la stabilité de notre nation, a déclaré John Thune hier. De son côté, le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a annoncé qu'il soutiendrait le projet de loi républicain malgré les réticences au sein de son propre parti. Il a souligné que bien que le texte soit imparfait, un shutdown serait encore plus préjudiciable, donnant au président Donald Trump et à l'homme d'affaires Elon Musk une carte blanche pour réduire les opérations fédérales, selon lui. Aussi mauvais que soit ce projet de loi républicain, un shutdown serait pire. Nous ne pouvons pas permettre que le gouvernement soit paralysé, ce qui donnerait à l'administration actuelle une excuse pour démanteler davantage nos institutions fédérales, a affirmé Chuck Schumer. La démarche du sénateur Schumer a provoqué des tensions au sein du Parti démocrate. Certains membres progressistes estiment que céder aux républicains équivaut à une capitulation. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez a critiqué cette décision, la qualifiant d'erreur stratégique. Accepter ce projet de loi sans se battre pour nos valeurs est une erreur. Nous devons nous opposer aux tentatives de démantèlement de nos services publics, a dit l'élu démocrate Ocasio-Cortez. D'autres démocrates sont toutefois d'avis que la position de Chuck Schumer est pragmatique pour éviter une paralysie gouvernementale aux conséquences potentiellement graves. Le président républicain Donald Trump s'est réjoui de l'appui du leader Schumer. Sur son réseau Truth Social, ce vendredi, il a félicité le sénateur démocrate pour son courage et sa sagesse, décrivant sa décision comme un geste intelligent qui pourrait, dit-il, conduire à des avancées significatives pour les États-Unis. Félicitations à Chuck Schumer pour avoir fait ce qu'il fallait. Cela a demandé du cran et du courage. Les grandes réductions d'impôts, la résolution du problème des incendies à Los Angeles, le projet de loi sur le plafond de la dette et bien plus encore arrivent. Nous devrions tous travailler ensemble sur cette situation très dangereuse. Ne pas adopter le projet de loi serait destructeur pour le pays. Son approbation nous mènera vers de nouveaux sommets. Encore une fois, vraiment bon et geste intelligent de la part du sénateur Schumer. Cela pourrait conduire à quelque chose de grand pour les États-Unis, une toute nouvelle direction et un nouveau départ, a écrit le président Trump. Alors que l'échéance approche, le Sénat doit encore rassembler suffisamment de voix pour adopter la mesure et donc éviter le shutdown.
Merci Jacques Aristide. Vous suivez pour nous un autre dossier. Le président américain Donald Trump se rend cet après-midi au ministère de la Justice pour y prononcer un discours axé notamment sur le rétablissement de l'ordre public et les mesures anti-criminalité. Hier, Donald Trump a exprimé son intention de présenter sa vision pour le département. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint à Riverdale dans l'État américain du Maryland le professeur Nopes Kibiswa, spécialiste en criminologie.
D'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas une justice totalement indépendante, nulle part au monde. Elle n'existe pas. Toute justice s'insère dans un contexte politique quelconque. Aux États-Unis, lorsqu'il y a un président démocrate, il nomme des juges pro-démocrates. Lorsqu'il y a un président républicain, il nomme des juges républicains, pro-républicains. Et donc, cette affaire d'indépendance de la justice, c'est relatif. Il n'y a pas de justice totalement indépendante, la justice est toujours dépendante d'un certain contexte et d'une ligne de conduite. C'est comme on dit, la presse est indépendante, mais il y a toujours une ligne éditoriale dans chaque maison de presse.
Quel pourrait être l'impact concret des annonces faites par le président Trump lors de son discours sur la politique judiciaire et sécuritaire aux États-Unis?
C'est de bonnes guerres, parce qu'il a considéré que la justice sous le président Biden l'a traqué. Et comme je venais de le dire, sous Biden, il y avait des personnes qui étaient au ministère de la Justice, qui dépendaient de Chissé en démocrate. Évidemment, lui va expurger, certainement, de l'appareil judiciaire toutes les personnes qui ne sont pas de son bord. Parce que la justice n'est pas toujours aussi indépendante que les gens le prétendent. Donc l'impact, c'est qu'il va expurger de l'appareil et il va expurger de l'administration toutes les personnes qui ne sont pas, qui ne pensent pas un peu comme lui. Et c'est de bonnes guerres parce que tout est politisé.
Justement, cette visite soulève des préoccupations quant à l'indépendance du ministère de la Justice. Quelles sont les garanties en place pour préserver son autonomie face à une éventuelle politisation, comme certains le disent?
Encore une fois, le ministre de la Justice des États-Unis, donc le secrétaire d'État, est à la fois ce qu'on appelle dans d'autres pays du monde francophone, procureur de la justice. Or, dans ces pays-là, le procureur général, c'est un organe du gouvernement et le gouvernement réfléchit en fonction de la ligne du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir étant le parti républicain, je ne vois pas en quoi on va nécessairement dire qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Je pense qu'il est dans son droit de faire ce qu'il fait. Je ne vois pas. Je l'ai déjà dit, je crois que l'impact, c'est que la justice sous Trump va aller selon Trump. Mais évidemment, il y aura des personnes, et ça c'est l'élément important, parfois une personne, selon ses convictions, qu'elle soit démocrate ou républicain, cette personne va raisonner à sa manière et peut mettre des cales sur la voie du président. Et si le président est en position de le limoger, il va le limoger. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est ces juges-là qui aura raison, mais si c'est un agent administratif, celui-là sera limogé, ainsi de suite. Donc moi, je considère que tout ce qu'on dit, la justice a toujours son côté. Même quand on parle de la justice de Dieu, elle a son côté, c'est le côté de Dieu. Et pour moi, la justice, c'est la volonté et la satisfaction du puissant. Or, le puissant aujourd'hui, aux États-Unis, c'est Trump. Il peut y avoir des contrepoids, mais le puissant aujourd'hui, c'est Trump. Ma définition de la justice, c'est celle-là. La justice, c'est la volonté et la satisfaction du puissant. Et le puissant aujourd'hui, c'est Trump aux États-Unis.
Professeur Nopes Kibiswa, docteur en analyse et résolution des conflits. Le sud des États-Unis a longtemps été associé à des manoirs, à colonnes blanches, à des fermes rustiques et à des structures vieillissantes chargées d'histoire. Mais une exposition au National Building Museum de Washington présente l'architecture dynamique, moderne et avant-gardiste qui émerge aujourd'hui de la région. Le récit est de Lionel Gaïma.
L'architecture des États du Sud des États-Unis a longtemps été associée à des grandes demeures à colonnes, à de longs porches d'entrée pour les rencontres et aux maisons coloniales françaises ornées de la Nouvelle-Orléans. Mais au National Building Museum de Washington, une exposition intitulée « A South 40 » présente une nouvelle esthétique méridionale. Des dizaines de cabinets d'architectes ont présenté les plans de leurs projets construits le long de la section sud-est de l'autoroute 40 qui s'étend de la côte de la Caroline du Nord à l'Oklahoma.
Nous étions ravis de nous associer à l'Université de l'Arkansas pour organiser cette exposition, pour mettre en lumière les architectures qui font un travail remarquable, qui travaillent avec l'architecture vernaculaire et contemporaine et qui repensent ce qu'est l'architecture du Sud.
À la Nouvelle-Orléans, le cabinet de Jonathan Tate travaille à la conception de projets de logements abordables. En Caroline du Nord, l'architecte Catherine Hogan et son équipe conçoivent des écoles et des centres culturels. Et South 40 présente également le futuriste Community Design Center de l'Université de l'Arkansas, ainsi que l'église presbytérienne Redeemer de Memphis, Tennessee, rénovée au milieu du siècle dernier.
J'espère que notre exposition démontrera la vitalité de l'architecture contemporaine du Sud, la qualité de sa construction et son caractère réfléchi.
L'exposition dépeint le Sud tel que ses architectes le voient, dynamique, audacieux et vivant. L'architecture est plus qu'un simple service ou produit. Elle a le pouvoir de montrer ce qui est important pour les communautés, déclare Roy Decker, architecte en chef de Duval Decker.
Qu'est-ce qui est durable? Qu'est-ce qui est équitable? Qu'est-ce qui est économique? Nous travaillons dans une région où les ressources sont limitées et où les besoins et les disparités sont importants. La question est donc de savoir comment l'architecture peut avoir une influence positive.
Et South 40 explore également les espaces publics, écoles, centres culturels et autres installations qui améliorent la qualité de vie des communautés locales.
Marlon Blackwell, this is his...
Marlon Blackwell, vous pouvez voir son travail et celui de son cabinet. Une grande structure ressemblant à une grange qui est en fait une école. C'est un travail extraordinaire.
L'exposition a ouvert ses portes à la mi-février et restera ouverte jusqu'à l'hiver 2026.
De plus en plus de musiciens s'auto-produisent, comme la chanteuse-compositrice Deva Tamo pour la production de son EP Moonlight Melodies d'influence soul, jazz, funk et makossa. Voici un extrait d'entretien musical de l'artiste d'origine camerounaise réalisé par Nathalie Bache.
Toutes les influences musicales que j'ai viennent essentiellement de mon enfance et de la musique que mes parents écoutaient. Ma mère écoutait Marvin Gaye, elle écoutait James Brown, Aretha Franklin. Après, en grandissant, j'ai écouté de la New Jack, du R&B, j'ai écouté du hip-hop, j'ai écouté du rock aussi. En fait, j'écoute tout style de musique en réalité. J'ai écouté énormément de jazz. Toutes ces influences, en fait, se sont imprimées en moi et j'ai baigné dedans aussi. Heaven, c'est une balade, c'est le paradis, c'est le destin qui rapproche deux êtres ensemble, le destin qui fait que cette personne est sur votre chemin et que vous, vous soyez mis sur son chemin, ce côté où il n'y a pas de hasard en fait au final. Quand on veut produire, il faut aussi avoir une vision, il faut avoir un horizon clair, savoir où on veut aller, que ce soit de la pré-production, à la réalisation, à la post-prod, à la communication. C'est vraiment beaucoup de travail. On a dépassé les 200 000 streams dans le monde entier avec un petit budget. Et l'idée là, c'est vraiment de faire des concerts, d'aller sur scène, de jouer. Look at Your Love, c'est la plus funky du projet. C'est une chanson sur l'amitié. Regarde-toi, aime-toi, respecte-toi et puis ne t'inquiète pas, je te jugerai pas. Si t'as besoin de pleurer, bah, je serai là. Si tu veux te cacher, bah, cache-toi, il n'y a pas de problème. Tu es libre avec moi. Batterie Maïlou Rakoto Nunahari avec un rythme jazzy, frais, groovy. Et Yagbaï Sangusek au djembé, à la percu et au tama. Il est venu mettre sa petite paire de percussionnistes sur Tu m'as dit.
Tu m'as dit que je suis celle qui est faite pour toi. Je ne peux que te dire que toi tu es moi.
Voilà, c'était Deva Tamo, chanteuse, compositrice, interprète d'origine camerounaise. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.